Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente.
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous j'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, business.
Allez, 18h, soyez les bienvenus, comme tous les soirs, évidemment, pour notre plus grand plaisir, dans Good Evening Business, jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors voici un nouvel épisode du dossier Casino, épisode on ne sait plus combien. Alors ce soir, on vous raconte que des discussions s'arrêtent entre certaines parties prenantes du dossier, mais que de nouvelles offres pourraient émerger dans quelques instants. On va voir ça avec Pauline Tadevin, bien sûr, dans quelques secondes.
Et puis sinon, il n'y a pas eu de vote, finalement, à l'Assemblée nationale. Eh bien non, sur le projet de loi Liotte, un projet qui voulait abroger la réforme des retraites du gouvernement. Le groupe Liotte a renoncé à présenter un texte qui a été vidé de sa substance. Et on en parle tout à l'heure à 19h15 avec la députée LR, Véronique Louwagie.
Et puis, alors au milieu de tout ça, figurez-vous que EDF vient de dire au revoir à la bourse après 17 ans de cotation. Bah oui, l'État redevient actionnaire à 100%. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un État actionnaire à 100% quand on sait que l'État n'a pas toujours très très bon nez hein, sur les questions de stratégie, évidemment. On en parlera avec Mathieu Pechberti notamment dans une dizaine de minutes. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, nouvel épisode du dossier Casino, qui en compte déjà beaucoup et qui en comptera encore beaucoup dans les prochaines semaines, les prochains mois, bien sûr. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on apprend ce soir, Pauline? Que Casino et Terract mettent un terme à leur discussion, mais que le trio fondateur de Terract, c'est Niel, Pigas, Zoari, eux continuent de plancher sur un scénario parallèle, un projet parallèle pour relancer le distributeur, c'est ça Pauline hein.
Oui, alors dans l'histoire de la reprise de Casino, en grande difficulté, groupe fortement endetté, il y avait deux offres de reprise sur la table. L'offre du groupe Terract, fondée par Xavier Niel, Mathieu Pigas et moi, Alexandre Zoari, sous l'égide d'une maison mère qui s'appelle Invivo, qui est un géant de l'agroalimentaire. Et il y a aussi l'offre de Daniel Kretinsky qui a posé 1 milliard d'euros sur la table. C'est de l'offre de Terract dont il est question ce soir. Terract et Casino sont entrés en négociation exclusive au mois d'avril. Cette période prend fin ce soir et à cette occasion, on apprend que les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur discussion, mais que les trois fondateurs de Terract, Xavier Niel, Moïse Alexandre Zoari et Mathieu Pigas, sont plus déterminés que jamais, nous dit-on, à reprendre et à recapitaliser Casino en solo.
Donc ces trois-là continuent en solo, comme vous dites. Apparemment, ils ont de grandes ambitions, Pauline.
Oui, ils créent un véhicule d'investissement dans lequel ils mettent au départ 200 à 300 millions d'euros et ils comptent s'appuyer en plus sur des créanciers avec comme objectif de lever plus d'1 milliard d'euros, ce qui leur permet donc de rivaliser avec l'offre de Daniel Kretinsky. Le trio Niel, Zoari et Pigas mettra au pot autant qu'il faudra, nous dit une source proche du dossier. Ils ont à cœur, poursuit cette source, de préserver Casino, ce qui est aussi une préoccupation des pouvoirs publics, nous dit-on, qui veulent une solution française et pas de démantèlement de ce grand groupe. L'enjeu social est énorme. Rien qu'en France, Casino, c'est 55 000 emplois. D'après nos informations, Terract et son actionnaire majoritaire, donc le géant de l'agroalimentaire Invivo, sortent donc des négociations entamées en avril avec la direction de Casino. Mais on pourrait les revoir rapidement apparaître dans les discussions si le projet de Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moïse Alexandre Zoari est retenu pour le sauvetage financier de Casino. Il reste en effet ces trois-là actionnaires de Terract. Ils pourraient bien s'appuyer dessus, comme sur d'autres acteurs bien sûr, pour bâtir leur nouveau projet industriel pour Casino.
Bon, on croit comprendre que le feuilleton est loin d'être terminé finalement, Pauline. Feuilleton qu'on suivra évidemment épisode après épisode sur BFM Business. Pauline Tadevin avec nous ce soir dans Good Evening Business. Et puis alors tenez, pour continuer sur le secteur de la grande distrib, on voulait vous faire écouter 30 secondes Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qu'Eva Jacquot a rencontré ce matin à Paris. Alors, il ne nous a pas parlé du dossier Casino, pas du tout, mais il nous a expliqué, c'est logique finalement, comment il allait utiliser ChatGPT pour nous aider à faire nos courses à l'avenir. Écoutez Alexandre Bompard.
C'est indiscutablement le début d'une révolution et d'une transformation à la fois de nos métiers, de nos organisations, de la façon dont on parle à nos clients. On est à la première étape d'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Avant, on utilisait l'intelligence artificielle. Et c'est une série d'options, une série d'usages nouveaux qui s'ouvrent à nous. Aujourd'hui, premier usage, premier développement. Il y en aura évidemment beaucoup d'autres sur lesquels nous travaillons déjà.
Voilà, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, rencontré ce matin à Paris par Eva Jacquot. Dans l'actualité, c'est pas une catastrophe absolue, mais enfin les chiffres l'ont quand même confirmé ce matin. Mine de rien, la zone euro a connu la récession cet hiver. Un recul du PIB au quatrième trimestre 2022, ça on le savait, mais recul aussi sur le premier trimestre 2023, ça on l'a appris ce matin. Donc deux trimestres de suite dans le rouge, ça fait récession, même si elle a été légère. Par contre, on a une bonne nouvelle en France. C'est qu'apparemment, les PME n'ont jamais été aussi nombreuses à se lancer à l'international. C'est ce que nous dit le dernier baromètre Capital Export Opinion Way. Apparemment, beaucoup de patrons ont décidé d'aller à l'international après le Covid, qui a changé pas mal de choses. Hélène Cornet nous raconte ça.
C'est un dynamisme qui a surpris même les auteurs de l'étude. Le nombre de PME françaises exportatrices est passé de 41% en 2021 à 67% cette année. Une réaction des dirigeants à la période Covid, selon le président de Capital Export. Les entreprises ont subi la fermeture des frontières, les contraintes d'un marché domestique figé. Cela a décuplé leur envie de se projeter sur de nouveaux marchés et d'augmenter leur périmètre commercial. Leur zone prioritaire de développement, l'Europe et les États-Unis. Les PME ne veulent plus être de simples spectatrices des incertitudes géopolitiques. Elles ont utilisé les aides accumulées durant la pandémie pour partir à l'offensive. Industrie, services ou distribution, tous les secteurs sont concernés. La seule condition étant d'être innovant et de proposer des produits à forte valeur ajoutée capables de faire la différence. Pour celles qui y sont déjà, l'international semble leur réussir. Ils représentent en moyenne 25% de leur chiffre d'affaires contre 12% en 2021.
Voilà, les PME françaises qui partent de plus en plus à l'international. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Et puis dans l'actualité internationale, pour terminer, c'est un déplacement qui passe pas inaperçu. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, est à Washington depuis quelques heures. Il vient parler commerce, évidemment, mais il vient aussi parler intelligence artificielle. Domaine dans lequel Londres a clairement l'intention de placer ses pions dans les prochaines années. Étienne Henry nous raconte ça.
Rishi Sunak va enfin pouvoir parler intelligence artificielle avec Joe Biden. Mis à l'écart des discussions entre l'Europe et les États-Unis sur la régulation, le Royaume-Uni veut désormais s'imposer comme une puissance d'équilibre. Mais le discours du gouvernement britannique sur le contrôle de l'IA évolue avec le temps. Lors de la publication d'un livre blanc en avril dernier, l'approche se voulait pro-innovation. Depuis, les alertes en matière de régulation se sont enchaînées. L'évaluation des risques est alors devenue primordiale. Un entre-deux qui pourrait placer Londres comme capitale de la gouvernance mondiale de l'IA. Rishi Sunak souhaite que le Royaume-Uni accueille un organisme mondial de surveillance de l'intelligence artificielle sur le modèle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une idée déjà avancée par Sam Altman, le patron d'OpenAI. Pour s'affirmer comme leader, Sunak souhaiterait organiser à l'automne prochain un sommet international sur l'intelligence artificielle pour discuter des risques et de la norme internationale à fixer.
Voilà, Londres qui place ses pions en vue de cette grande bataille de l'intelligence artificielle. 18h08, nous on va sur les marchés. Les marchés, Étienne Brack, Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, j'ai l'impression que c'est encore été assez moumou ce soir à la Bourse de Paris. Hein.
Pour reprendre votre expression, on a des marchés qui sont dans leurs petits chaussons avant les banquiers centraux. On a des volumes qui sont dignes d'un mois d'août. 2,3 milliards d'euros échangés dans le CAC 40, c'est vraiment très très faible. Néanmoins, on a une petite hausse de 0,3%, 7222 points pour le CAC 40, avec bien sûr les marchés qui attendent la Fed. Hein, ça sera mercredi, suivi de la BCE jeudi. Donc en attendant, on a des acteurs de marché qui prennent pas trop d'initiatives. À noter qu'on a des valeurs cycliques néanmoins qui sont bien positionnées. Figurez-vous que ce matin, Saint-Gobain, pardon, a tenu son assemblée générale et s'attendent à une marge opérationnelle à deux chiffres. Malgré le contexte, avec l'immobilier neuf qui est en panne, etc., on voit quand même qu'on a des groupes qui se portent bien dans le CAC 40. Donc vous avez un titre qui surperforme l'indice ce soir. Et puis vous avez Soitec également qui s'en sort très bien, qui a publié ses résultats annuels hier soir et qui a tenu sa conférence avec ses investisseurs ce matin, qui prévoit de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2025-2026, plus 1,3% pour la valeur à 138 euros. À noter que Pierre Barnabé, le PDG de Soitec, sera l'invité de la matinale demain matin. Et donc le CAC 40 qui grappille 0,27% ce soir au fixing à 7222 points.
Merci beaucoup Étienne. Et puis on regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street, bien sûr, à la mi-séance. Le Dow Jones, on va voir ça dans un instant. Et on ira voir bien sûr Sabrina dans une heure à New York. Le Dow Jones qui grappille 0,22%, 33 737 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui progresse d'environ 1%, 13 232 points. 18h10, c'est l'heure de notre premier débat sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui, mine de rien ?
Eh bien, EDF, on est parti !
Mais oui !
Enfin, ça faisait 17 ans.
Ça faisait 17 ans, EDF qui quitte la bourse, puisque désormais l'État possède 100% du capital. On va en parler avec Mathieu Pechberti qui est avec nous. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et puis Nicolas Meillan qui est avec nous en visio. Bonsoir Nicolas Meillan, merci beaucoup d'être avec nous, entrepreneur, ancien conseiller scientifique à France Stratégie. Qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe désormais ? L'État actionnaire à 100% d'EDF. L'État stratège, donc on a dit pique-pendre. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt un atout ou un handicap pour EDF qui a tant de défis à relever finalement, Nicolas ?
Ben écoutez, alors, d'un point de vue financier, par rapport à leurs investisseurs, étant donné la dette colossale d'EDF, hein, 65 milliards d'euros, et les besoins de financement très importants à venir, hein, avec le financement des prochains EPR, ça va plutôt dans le bon sens. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord, l'État avec Luc Rémont, est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs ? Aujourd'hui, en fait, EDF, avec le mécanisme de l'AREN, est privé de ses moyens de financement. Et ça fait 10 ans, finalement, qu'on affaiblit EDF, puisqu'il vend à ses concurrents une électricité sous son coût de production. Et nous avons signé une tribune dans le Figaro mardi avec Henri Proglio, Louis Leflocq Prigent, Arnaud Montebourg, Raphaël Schellenberger, le président de la commission d'enquête, Hervé Macheteau, pour dire qu'il faut suspendre l'AREN tout de suite. C'est prévu dans les textes, c'est dans la loi NOM. En cas de circonstances exceptionnelles, on peut suspendre cette AREN. Pour vous expliquer pourquoi il faut faire ça, aujourd'hui, tous les Français, à part les industriels électro-intensifs, payent une électricité à 300 euros du mégawattheure hors bouclier tarifaire. Et le coût de l'électricité en France, pour 90%, c'est 60 euros. Donc on doit retrouver cet atout stratégique. Et avec l'AREN, EDF n'a aucune chance de s'en sortir.
Mais alors justement, comment est-ce que vous jugez de ce point de vue-là les premiers mois de Luc Rémont ? Parce qu'on entend dire quand même qu'il y a des divergences de point de vue avec le gouvernement, puisque lui voudrait justement précisément avoir les coups des franches pour fixer les prix de vente.
Luc Rémont, si vous voulez, pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose, on n'a pas d'annonce, pas de plan. Et le problème de Luc Rémont, c'est qu'il arrive dans une entreprise tout seul, sans son entourage, sans sa garde rapprochée, sur un sujet qu'il ne connaît pas. Et je ne suis pas sûr, si vous voulez, EDF, c'est une tradition de service public. Je ne suis pas sûr que ce service public soit quelque chose qui l'anime, étant donné qu'il faisait partie de la banque qui a vendu Alstom à General Electric. Donc le problème avec EDF, c'est que ça fait quand même plusieurs générations qu'on a des présidents plutôt mauvais. Jean-Bernard Lévy qui a fermé Fessenheim, Pierre Ganonex qui a laissé Areva.
Il a l'avantage peut-être, Nicolas, lui, d'être au moins du Serail, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur, si je ne m'abuse, à savoir Jean-Bernard Lévy. Non, ce n'est pas un point pour vous à soulever ça de positif.
Il est du Serail, mais vous savez, ce n'est pas les mêmes équipements. Schneider Electric, ce n'est pas le même métier. Donc, il faudra voir. Il a quand même dit que l'AREN était à bout de souffle, qu'il fallait en changer. Ce mécanisme doit durer jusqu'à 2025 et maintenant, les gens demandent qu'est-ce qu'on fait ensuite ? La suite, c'est assez simple. On a voulu créer un marché de la concurrence face à EDF, qui a du nucléaire et l'hydraulique. On s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné. Les alternatifs, 125 fournisseurs alternatifs, n'ont pas investi dans les capacités de production. C'est ce qui était prévu. Dont acte, on revient à un monopole avec EDF. On remet en place des tarifs régulés pour nos entreprises, parce que c'est pour ça qu'on a créé l'AREN. On était sous procédure de la Commission européenne, puisque pour concurrence déloyale, parce que nos entreprises avaient une électricité trop bon marché. on revient à ses règles. L'Allemagne met 200 milliards d'euros sur la table pour aider ses entreprises. Oui. On n'a plus à se cacher.
Mais alors justement, aujourd'hui, Mathieu Pechberti, il y a eu une déclaration à la fois de Luc Rémont et de Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui sont tous les deux tombés d'accord pour dire que EDF n'est pas nationalisé, mais qu'il a un seul actionnaire à 100% et c'est différent. Est-ce que c'est une forme de rébellion ?
Alors en tout cas, oui. Alors cette petite phrase a été prononcée par Luc Rémont il y a quelques heures, et avec un Patrick Pouyanné, effectivement, patron de Total Energy, en face, qui s'est toujours un petit peu battu contre EDF, hein, pour être clair, et qui, lui, est d'accord pour dire on n'a pas besoin de la réglementation de l'État, faisons des opérations commerciales entre EDF et Total, et les autres fournisseurs, mais lui parlait pour Total, sous-entendant que EDF était une entreprise, entre guillemets, encore privée. Et donc, Luc Rémont a eu cette petite phrase en disant EDF, effectivement, n'est pas nationalisé, mais un seul actionnaire.
Lourde conséquence, oui, donc, pour prolonger la question de Reyes, il y a une sorte de rébellion dans tout
à
ça.
À partir d'aujourd'hui, l'État a 100% du capital d'EDF, donc EDF est une entreprise nationalisé et son PDG qui vient du privé, qui a été recruté par l'État du privé, est en train de dire « mais je ne suis pas nationalisé ». Donc c'est pour vous donner un petit peu
l'ambiance,
le tableau.
Oui.
En fait, Luc Rémont, lui, se rend bien compte que s'il laisse faire, vous allez avoir tous les ministres du gouvernement, tous les hauts fonctionnaires de toutes les administrations qui vont vouloir mettre leur grain de sel dans la gestion d'EDF du financement des réacteurs à l'imprimante. C'est un petit peu ça. Ça fait quand même 6 mois qu'on entend beaucoup dans les couloirs des ministères. EDF, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a quand même beaucoup dans les administrations qui sont contents parce qu'ils ont un nouveau jouet qui s'appelle EDF. Lui, Luc Rémont, il arrive du privé. Il voit une entreprise qui est complètement exsangue. Hein, elle serait privée, on dirait qu'elle est en situation de faillite.
64 milliards d'euros de dette,
mais elle est exsangue.
64 milliards d'euros de dette.
Donc lui, il veut redresser la boîte.
Bah donc
il
lui, vient en du fait, privé. Alors justement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut gérer le groupe comme une entreprise et pas comme une administration.
Et oui, mais enfin, il a un actionnaire qui s'appelle l'État français. Donc oui. Et à un moment donné, on se dit, bon, on a l'impression de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a pas 36 000 solutions. Il a des parcs, il a un parc à entretenir et puis, en tout cas, à faire redémarrer pour la plupart. Il a des réacteurs à faire financer et il a des prix à fixer. Et lui, il dit, en gros, pour terminer, à l'État, laissez-moi tranquille, laissez faire mon boulot. Je vais fixer mes prix avec mes clients, que ce soit les consommateurs en leur proposant évidemment des prix à la facture pas trop élevés, et puis avec les entreprises, je vais me débrouiller seul. Alors que l'État, lui, veut tout réguler lui-même. Pour éviter justement que les prix d'électricité pour les consommateurs n'augmentent trop.
Justement, la feuille de route, Nicolas, et je vous poserai la question à vous, Mathieu, aussi, dans un instant. Nicolas Meillon, parmi les objectifs de Luc Rémont, les défis, la feuille de route, il y a financer la construction de ces 6 EPR, dont les premiers devraient être opérationnels, nous dit-on, aux alentours de 2035. Il y a une estimation qui tourne autour de 50-51 milliards d'euros pour les 6 EPR.
Hors inflation.
Hors inflation, est-ce que l'entreprise, forcément, ne pourra pas absorber seule, Nicolas ? Comment est-ce qu'on va résoudre déjà cet impératif de court terme, finalement, parce que c'est aujourd'hui que ça se budgète, tout ça.
Ce qu'il faut vraiment résoudre, c'est que EDF, avant, était une entreprise qui fonctionnait bien parce qu'elle gagnait de l'argent, parce qu'elle vendait l'électricité au-dessus de son coût de production.
Oui.
Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité, elle le vend en dessous. Donc déjà, il faut remettre le modèle d'affaires en marche pour qu'elle puisse avoir des coûts défranches et qu'elle puisse générer du cash chaque année et pas faire 20 milliards d'euros de pertes. Donc ça, c'est la première étape et c'est très simple, comme j'ai dit, c'est le ministre de l'économie et le ministre de l'énergie qui signent un décret pour suspendre l'arrêt sans délai. C'est pas quelque chose qu'on invente, hein, c'est la commission d'enquête Raphaël Schellenberger, ça fait partie des 30 propositions, suspendre l'arrêt et le compenser bien évidemment pour nos entreprises, parce que je veux quand même rappeler, vous regardez bien ça chez BFM Business, nous sommes à un niveau de défaillance au plus haut depuis 8 ans sur nos TPE et nos PME qui payent des prix d'électricité 3, 4, voire 10 fois plus cher qu'il y a 2 ans.
Mathieu Pechberti, 1, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Nicolas vient de dire ? Et 2, est-ce que vous dites quand même que le fait que EDF soit détenu aujourd'hui à 100% par l'État va faciliter les discussions du gouvernement avec Bruxelles, notamment sur le sujet du financement des 50 milliards pour les nouveaux EPR ?
Alors, sur ce point-là, c'est clair que ça va, en tout cas...
aider.
Aider, faciliter, je ne sais pas, ça ne sera jamais facile avec Bruxelles, mais disons qu'il y aura un seul pilote dans l'équipe de France, on va dire, de l'énergie.
Alors nucléaire fait partie de la taxonomie.
C'était donc le bazar.
Ouais.
Voilà. Donc, oui, ils vont aller, on va dire, main dans la main à Bruxelles. La question, c'est effectivement, comment finance-t-on les réacteurs ? EDF n'a pas d'argent, d'accord ? On part de ce postulat.
Non seulement ils n'ont pas d'argent, mais ils ont une grosse dette. Oui.
L'État français vient de mettre en un an et demi 15 milliards d'euros pour relancer EDF, pour le retirer de la cote. Et on est en train de voir si, sur les 50 milliards, on ne peut pas aller puiser pour environ un tiers de ses besoins de financement sur le livret A. On a demandé aux Français s'ils ont envie que le livret finance le nucléaire. J'en sais rien. Donc, il va falloir aller voir Bruxelles.
Non, pas le choix.
On n'aura pas le choix, mais en allant voir Bruxelles, en disant que l'État, maintenant, est actionnaire unique d'EDF, que l'État veut fixer une nouvelle régulation, on va revenir sur les concessions que Bruxelles demande en échange à EDF et au gouvernement français. Et vous faites des efforts pour relancer la concurrence en France, alors même qu'on vient de nationaliser EDF, et donc vous vendez des bouts d'EDF. Voilà. Après, sur la régulation, c'est autre chose qui vient d'être dit par Nicolas Meillant, c'est-à-dire que il y a un choix politique à faire. Voilà. La fin de la régulation, est-ce que vous voulez une régulation entre guillemets encore? Dites entre guillemets un petit peu de concurrence où EDF va signer des contrats avec des entreprises industrielles de services en disant moi je vous vends de l'électricité à tel prix, à tel prix, à tel prix, auquel cas il y aura quand même encore un petit peu de concurrence, c'est-à-dire en tout cas pour les clients, mais les prix vont augmenter de toute façon.
Oui.
Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement français qui vient de mettre en place un bouclier tarifaire, qui sait que dès que ça va s'arrêter, les prix vont exploser, donc qui dit non, nous, on veut pas de hausse de l'électricité.
Il a déjà ponctionné EDF à hauteur de quelques 8 milliards, 8-9
milliards. Mais si vous augmentez pas les prix de l'électricité, vous avez quand même beaucoup plus de mal à investir.
Bah, je vous rappelle quand même que la réforme du marché européen de l'électricité est à l'agenda de la Commission européenne, hein, et la France espère
bon
que
courage, parce que l'Allemagne,
ça se met en place en fin d'année.
A tout gelé, et l'Allemagne ne fera aucun cadeau à la France là-dessus.
Oui. Enfin, ça fait 20 ans que ça dure. La France ne fera aucun cadeau de la même manière à l'Allemagne.
On a 30 secondes, Nicolas Meillant, mais on le disait, c'est cette dette absolument faramineuse de 64 milliards d'euros. Si au moins une chose que va permettre de ramener EDF à 100% dans le giron de l'État, c'est de calmer un petit peu les agences de notation qui sont prêtes à tout instant à dégrader la note d'EDF. C'est toujours ça de prix, voilà, finalement.
C'est toujours ça de prix, mais je veux quand même rappeler qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché électricité. C'est un mythe, puisque vous avez un producteur d'électricité et des producteurs de factures. Elle n'existe pas, la concurrence, et c'est bien ça le problème. Et il faut la rétablir, la concurrence. Il faut que les acteurs vendent de l'électricité.
Elle n'existe pas, sauf quand EDF doit revendre le quart de sa production, je crois, à des tarifs complètement cassés. Donc elle existe, elle est néfaste aussi.
Justement, c'est ce que je dis bien.
Oui, oui.
C'est ce que je dis bien. Ils la vendent, et donc ses concurrents qui lui piquent des clients revendent l'électricité d'EDF. Donc ça n'est pas de la concurrence. La concurrence, elle doit être sur l'électricité. Ceux qui ont joué le jeu, qui ont investi dans des capacités d'électricité, ils peuvent la vendre. Ceux qui n'ont pas joué le jeu, ils disparaissent. Point barre.
Ouais, on en est là aujourd'hui.
Et le problème, quand même, Nicolas, c'est que personne ne veut investir dans le nucléaire.
Écoutez, après, ça, c'est vrai qu'il y a un débat à Bruxelles, Bruno Le Maire, puisque les Allemands ne veulent pas inclure le nucléaire dans la taxonomie. Je vais quand même finir par une bonne nouvelle, parce qu'il y a cette tendance.
Allons-y, on est preneurs.
Dans les discussions qu'il y a sur la réforme du marché de l'électricité au niveau européen, comme on sait que c'est l'Europe, c'est un gros bateau, ça va prendre du temps, peut-être un an et demi, mais c'est d'inclure des contrats à long terme sur le nucléaire, y compris existant. Donc ça, ce serait quand même un moyen, déjà, pour EDF de pouvoir vendre sa production plus à 42 euros du mégawatt-heure. Hein. Le coût de production du nucléaire complet, c'est 60. Donc il vend à un tiers de moins. Mais donc déjà, de pouvoir mieux financer ce nucléaire existant. Et puis après, effectivement, il faut mobiliser l'épargne des Français. Et vraisemblablement, l'État va devoir mettre au pot.
Et ben voilà, donc pour EDF qui quitte la côte ce soir après 17 ans et beaucoup, beaucoup de questions encore sans réponse. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Meillant, entrepreneur, merci ancien beaucoup. Conseiller scientifique à France Stratégie. Merci beaucoup Mathieu Pechberti.
Merci.
Et dur le patron Lucrémon, pourtant nommé par Emmanuel Macron. Hein, qui...
Au moment, oui, c'est
un ça commence à sentir la rébellion là quand même.
Ah bah oui, mais il n'a pas le choix sinon.
Il a vu ce que ça donnait chez les prédécesseurs.
C'est jamais simple d'être patron d'EDF de toute façon. Merci beaucoup Mathieu d'être passé de voir. 18h22, on marque une petite pause.
On va continuer sur le feuilleton EDF, Guillaume, dans le grand débat qui arrive tout de suite.
Et puis la proposition de Lyot, fin piteuse puisqu'il n'y a pas eu d'examen aujourd'hui. On va en parler de tout ça bien sûr jusqu'à 19h sur BFM Business.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h26, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcharkov.
Bonsoir.
Bonsoir. Léonidas Kalogiropoulos est avec nous.
Bonsoir.
Léonidas, bienvenue. Merci président de médiation et argument, vice-président d'éthique, Bruno Coquet. Bonsoir, Bruno.
Qui est là tous les soirs en ce moment?
Ben oui, il fait du rab. C'est comme ça, pour notre plus grand plaisir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Et lui aussi, il fait du rab. Mais plusieurs fois par semaine, c'est Emmanuel Le Chip qui est avec nous. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Pour notre plus grand plaisir également.
Plusieurs fois par jour.
Par jour, exactement, du matin au soir.
Oui, absolument. Bien, beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. D'abord, cette drôle de fin de partie. On en dit un petit mot pour la proposition Lyot qui avait pour objectif, vous savez, de s'aborder la réforme des retraites du gouvernement. Les députés du groupe, précisément, ont décidé de le retirer in extremis ce matin.
Et leur argument, évidemment, c'était de dire que le texte a été vidé de sa substance, puisqu'il ne sera pas possible de se prononcer sur le décalage de l'âge de départ à la retraite. On écoute tout de suite le député Lyot, Bertrand Pancher.
Il ne reste plus rien, vous l'avez compris, dans le texte que nous avons prononcé, présenté, sauf évidemment les amendements de la minorité présidentielle. Le Parlement sort considérablement affaibli de cet épisode et par conséquent, en responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte.
Je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser de cet épisode. Là, je vous laisse le soin de dire ce que vous en pensez.
Alors écoutez, c'est compliqué, mais je vais essayer. Une séance sans suspense, ça c'est clair. Maintenant, ce qui est quand même gravement triste, c'est qu'on voit que ça ravive toutes les tensions stériles de cette législature. Personne ne s'écoute. Chacun est concentré à préparer ses ripostes. Chacun interprète à son avantage le règlement de l'Assemblée nationale. Coquerel, de son côté, reproche à Braun-Pivet une lecture trop littérale, pour reprendre son terme, des textes, parce que c'est vrai qu'il est d'usage d'être assez souple par rapport aux propositions de loi, pas tant parce que les propositions de loi de l'opposition, elles ont pour but d'être adoptées, mais parce qu'elles ont un but tribunicien, c'est vrai, sauf qu'avec une majorité aussi relative, est-ce que le gouvernement a le choix? Non, et tant qu'il aura cette majorité aussi relative, il sera obligé de continuer à passer en force.
Ça reste évidemment le problème tant qu'il n'y a pas de majorité qui se dégage. Comment est-ce que vous qualifiez cet épisode? Vous dites quoi? C'est les pieds nickelés? C'est quoi finalement?
Non, mais je trouve qu'il y a dans cette histoire l'idée qu'à un moment donné, il faut que la démocratie joue pleinement son rôle. Mais la démocratie, ce n'est pas tous les jours. La démocratie, elle a un rythme. La question des retraites va être tranchée par la démocratie. Oui. Dans 4 ans, il y a une élection. Tous les candidats qui voudront se présenter en disant nous remettrons sur le tapis cette réforme et on reviendra sur l'âge de départ à la retraite pourront le faire et les Français voteront. C'est logique, c'est normal. Il n'y aurait pas une nouvelle échéance démocratique, on pourrait se dire, il faut tout faire. Mais là, on a comme une espèce de théâtralisation des institutions où, effectivement, ils savaient bien qu'ils étaient borderline, mais c'est pas comme s'il y avait un déni de démocratie absolue. Il y aura bien une séquence, elle est dans 3 ans et demi.
C'est une séquence politique, je sais pas, c'est un commentaire, 30 secondes à faire là-dessus, Bruno, Emmanuel... Bah,
c'est quand même une séquence de laquelle le Parlement sort... Enfin, l'Assemblée nationale
affaiblie.
Sort considérablement affaiblie parce que finalement ils se sont tous finalement ridiculisés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses à reprocher à quasiment tout le monde sur l'irresponsabilité des dépôts massifs d'amendements, sur les petits calculs politiques, sur cette façon finalement de faire fonctionner l'Assemblée comme des hamsters qui tournent dans leurs roues. Avec une utilité qui est quasiment nulle. C'est-à-dire que moi, je partage ce que dit Léonidas, les grands discours de ces gens qui se croient tous plus importants qu'ils ne sont, sur les atteintes à la démocratie, etc. C'est quand même pas supportable. C'est-à-dire qu'il faut quand même mesurer, quand on parle d'atteinte à la démocratie, il faut quand même mesurer de quoi on parle. Donc là, je trouve qu'ils ont joué tous un théâtre de la NUPES finalement.
La NUPES plus que les autres, quand même.
À cette minorité, à ce groupe qui déposait Elliott qui déposait cet amendement aujourd'hui, quand on voit que finalement ceux qui se comportent de la façon la plus raisonnable, bon, c'est à peu près les députés du Rassemblement National et peut-être les macronistes et encore je sais pas foncièrement des députés les Républicains.
Bon,
c'est pas une très belle Assemblée nationale.
Ça vous laissera pas un souvenir impérissable. Bruno, je vous donne la main dans un instant. Bruno, on va faire la pause, 18h31, le rappel des titres et puis on revient dans 2 minutes. Et on va jusqu'à
tout de suite.
Good evening business, le débat.
Avec André Tcherkov, avec Léonidas Kalogiropoulos, avec Bruno Coquet, avec Emmanuel Le Chypre, qui ont tous eu un mot pour la proposition de loi Liot qui n'a pas été votée, ni votée ni examinée d'ailleurs par les députés. Bruno, vous vouliez dire un mot?
Qui était retiré. Ouais.
Retiré in extremis. Donc, sur cette séquence qui ne restera pas dans les annales. Voilà.
Un point technique, c'est que finalement on aura discuté de cette réforme de retraite ni après, ni pendant, ni avant.
Oui. C'est un point important.
Et c'est pas tout le temps qu'on a une fenêtre de tir pour discuter des retraites. Et l'autre point, qui est un peu technique aussi, mais le motif de refus de la loi Liot, qui est le contraire à la Constitution, puisque ça pèse sur les recettes publiques, ça aurait pesé sur les recettes publiques de baisser l'âge de 64 à 62 ans, Mais du coup, c'est vrai pour toutes les lois. Donc, par exemple, la loi travail, là, moi, j'ai pas compris comment c'était financé. Par du déficit budgétaire, pour le rapport Guy-Louis.
Non, pardon, non, mais le principe, c'est qu'un parlementaire ne peut pas prendre d'initiative qui dégrade l'état des finances publiques, soit en créant une charge nouvelle, soit en retirant une...
Oui, mais Léonidas, en réalité, on peut dire que ça s'applique à tout, et on peut imaginer que toutes les propositions de loi vont être rejetées.
Tous les amendements parlementaires sont passés au crible de l'examen de l'article 40 de l'irrecevabilité. Si un amendement crée une charge nouvelle ou retire une recette fiscale, il est retiré du débat. Donc tous les amendements qui sont débattus passent sous le crible de ce tamis. Et ça va, c'est également valable pour les propositions de loi. Ce n'est absolument pas quelque chose qui est dégainé pour ce texte. C'est quelque chose que tous les praticiens de la vie parlementaire connaissent. Voilà.
Oui, mais encore une fois, on est censé être plus souple sur les, projets de loi proposés, notamment par l'opposition, sans pour autant qu'ils soient adoptés, mais encore une fois, parce qu'ils font partie du débat.
Bruno, alors, ça aurait pu faire partie du débat, mais en l'occurrence, oui.
Sur ce point tout à fait technique, je me mêle pas de la technique parlementaire, les véhicules juridiques, c'est pas mon truc.
Pour illustrer quand même la portée du débat qui n'a pas eu lieu, pour le coup, c'est que ça rappelait que la réforme qui a été adoptée permet l'équilibre de nos retraites, c'est-à-dire que les gens qui travaillent...
Plus en l'État.
Non, mais d'accord, plus en l'État, mais c'est pas... Ça permet.
Enfin, en tout cas, ça a réussi à convaincre et Bruxelles et une agence de notation. Non, enfin,
ça permet de tendre vers l'équilibre. Or, ça illustrait à quel point le fait de retirer ce cadrage sur les 64 ans déséquilibre radicalement. Et ça, c'est un point, je pense, qui, d'un point de vue démocratique, on a énormément entendu parler des retraites. Je ne suis pas certain que tous les Français aient bien entendu que sans cette mesure d'âge, on est en déséquilibre profond.
Oui, d'accord.
Et ça, c'est. Autant de débats, autant de bruit, pour si peu de compréhension de la portée de l'enjeu de la réforme, je trouve que c'est là qu'il y a véritablement un problème.
Mais quand vous dites, Léonidas, tout à l'heure vous avez dit, la démocratie elle est là puisque de toute façon il y a un enjeu électoral en 2027. Mais le gros problème, c'est que je vous rappelle qu'en 2021 c'est un électeur sur deux seulement qui s'est présenté aux urnes. Et que notamment la NUPES, mais c'est vrai aussi les autres, mais surtout la NUPES, je trouve, donne une image du débat parlementaire de l'Assemblée tellement catastrophique que je pense qu'en 2027, on va se retrouver avec 20% de Français qui vont voter. Et donc, je ne sais pas si on peut appeler ça une réelle démocratie.
J'imagine qu'il y aura des candidats à l'élection présidentielle qui se présenteront aux Français en disant « je remettrai en cause la réforme des retraites ». Eh bien, s'ils sont élus, la démocratie aura parlé.
Allez,
C'est pas un dégât direct.
Oui.
On saura ça dans 4 ans. Est-ce que vous versez une petite larme ce soir pour le retrait d'EDF des marchés financiers? Ben oui, parce qu'après 17 ans, EDF a quitté la bourse ce soir, puisque l'État possède désormais 100% du capital. Oui, mais alors, est-ce que c'est une bonne chose? EDF, dont 100% du capital est détenu par l'État. L'État stratège dont on a dit pique-pendre. Est-ce que vous dites que c'est plus un avantage ou plus un inconvénient d'avoir un État à 100% au capital désormais, finalement?
Alors, j'anticipe sur Emmanuel Le Chypre, avant qu'il nous dise qu'on doit mettre tout le monde en prison. Non, mais moi, je pense que le fait que EDF sorte de bourse, c'est une opération qui va permettre de sécuriser les conditions de financement du groupe, qui est quand même dans une tourmente sans nom, les 65-66 milliards, de toute façon c'est trop d'euros de dette, et l'effondrement de sa production nucléaire. Ça permet quand même à l'État d'aller voir Bruxelles dans des conditions un peu plus sereines pour justement financer les nouveaux réacteurs à venir. Donc en ce sens... ça me semble être plutôt positif.
Ça permet surtout de piquer l'argent du contribuable plus facilement que d'attirer celui des investisseurs, c'est sûr.
Non mais, pardon, mais le fait est que je ne suis pas totalement certain dans l'état assez triste, c'est une entreprise à laquelle tous les Français, j'en fais partie, sont très attachés. 18 milliards pour une entreprise quasiment en monopole sur son secteur, 18 milliards de pertes en une année, quand même fascinant. 66 milliards de dettes, effectivement, on l'a dit. Je ne suis pas certain que l'État ait été un bon partenaire d'EDF.
C'était une situation de crise, situation de guerre et de pénurie d'énergie.
Mais est-ce que le problème d'EDF, c'était pas assez d'État et donc c'est bien qu'il y en ait davantage aujourd'hui? Ou est-ce que c'est d'avoir eu tellement d'État qu'il a eu du mal à trouver son chemin d'entreprise viable? Et d'ailleurs, vous avez vu que le nouveau PDG réclame d'avoir une stratégie d'entreprise.
De pouvoir fixer ses prix lui-même,
et d'avoir effectivement
une indépendance. Voilà.
Or, dès à présent, alors que ça fait quelques semaines qu'il est là, il a sa tutelle qui lui demande d'obéir à des injonctions qui sont pas véritablement des injonctions à équation économique viable. Donc, je ne suis pas certain que ce qui vient d'arriver soit très rassurant.
On lui demande d'un côté d'investir massivement pour accélérer dans les énergies renouvelables, pour construire les fameux réacteurs. On nous parle de 50 milliards en inflation pour les 6 EPR. Et d'un autre côté, on lui demande de continuer à être sous tutelle pour fixer ses prix. Voilà, enfin, c'est les injonctions contradictoires finalement pour le patron d'EDF.
Et de permettre à ses concurrents de vivre.
On a déjà des injonctions bizarres, on va dire, de l'Europe.
Oui.
Moi, je suis totalement pro-européen, donc pas de problème sur le principe, mais quand même on n'y comprend rien. Sur les monopoles naturels, on voit bien que c'est aller dans un sens, dans l'autre, sur séparer les infrastructures de la distribution, je reviens pas sur la scission de la SNCF, puis la refusion avec RFF, la dette. Donc là on est un peu dans le même schéma, c'est que on a l'impression que des gens ont lu le manuel pas tout à fait jusqu'au bout sur le chapitre concurrence, et que du coup l'état stratège devient un espèce d'oxymore. Il suffit pas de le dire. C'est-à-dire, la stratégie peut
ça
pas
souvent été, ça, ça souvent été, ça a souvent été un bide, hein, l'état actionnaire, l'état stratège, hein, entre parenthèses. Je trouve Emmanuel assez timoré quand même sur le sujet.
Justement, alors Emmanuel, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que le fait que EDF sorte de bourse, ça va permettre enfin de lancer cette grande restructuration du groupe qui a été repoussée, ajournée, donc c'est le grand projet Hercule, qui n'a pas eu lieu notamment parce que les actionnaires minoritaires n'étaient pas d'accord avec le prix de vente qu'on leur proposait pour acheter leurs actions.
Non mais je crois que vu le niveau déjà auquel était l'État dans la précédente version, je suis pas sûr que l'État avait vraiment les mains liées pour faire ce qu'il voulait. Moi je pense que la bonne question c'est effectivement celle de Léonidas, c'est-à-dire en gros est-ce que EDF souffre de trop ou de pas assez d'État? Non, EDF souffre effectivement massivement. Alors un, des injonctions contradictoires qui plombent de toute façon toutes les autres entreprises publiques, comme on demande à la SNCF à la fois de fournir un service de train qui arrive à l'heure sur des rails parfaitement en bon état, le tout à un prix extrêmement modique pour les clients, comme on le demandait à une époque à Air Inter, comme on le demande aussi parfois un peu à Air France, comme on le demande à La Poste, hein, d'être à la fois compétitif, de gagner de l'argent, mais d'assurer une mission de service public, d'avoir des facteurs dans chaque village, etc. Et donc on voit bien que tout ça est un grand écart permanent et que ça ne fonctionne pas vraiment très très bien. Et ajouter à ça les spécificités qui sont celles d'EDF, parce que finalement, au-delà de ces difficultés qu'ont les autres entreprises du service public, il faut reconnaître que EDF, c'est quand même la quintessence de ce qui se fait de pire en matière de gouvernance française, si vous voulez dire que c'est quand vous avez cette espèce d'alliance terrifiante entre les grands corps d'ingénieurs et les syndicats.
Mais d'où l'importance de restructurer.
Vous voyez le résultat que tout ça produit.
Et un patron qui n'a jamais les coups des franges.
Des gens qui ont conduit le nucléaire dans le mur. Des gens qui effectivement.
Non mais privatiser la partie commerciale pourquoi pas et garder tout ce qui est souverain sous l'État.
À une équation financière absolument terrifiante. C'est-à-dire des dépenses considérables à venir, un endettement colossal. Donc c'est de toute façon qu'est-ce qui va se passer, c'est que c'est encore le contribuable qui va payer les errements d'EDF,
parce que
nationalisé à 100% ou pas.
Alors Luc Rémont a dit que EDF n'était pas nationalisé, mais simplement qu'il avait été un actionnaire à 100% et que c'était pas la même chose. Donc il y a un petit sentiment de rébellion quand même.
Luc Rémont nommé par Emmanuel Macron il y a de ça quelques mois, ça commence déjà à sentir la rébellion. Mais soit vous soumettez quand vous êtes patron d'EDF, soit vous dites des choses comme.
Naïvement, ce qui me surprend, c'est que à 84%, on peut penser quand même qu'un actionnaire maîtrise l'entreprise.
Un peu.
Deuxième point, oui. 9 milliards et demi en ce moment, c'est beaucoup d'argent.
Oui.
Et que EDF a besoin d'être capitalisé. Donc pourquoi ne pas augmenter le capital avec ces 9 milliards et demi, ce qui aurait dilué par ailleurs les actionnaires minoritaires. Voilà, enfin, il y a plein de questions.
C'est une bonne question.
Qui ne sont pas évidentes.
Plus de bourse, mais beaucoup de questions chez EDF. Voilà comment ça se passe. Marque une pause, 18h43, on revient dans un instant. La taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est une bonne idée, sauf qu'on a une étude qui nous le confirme. Bah, ça va quand même piquer un petit peu pour les industriels français, pour les projets de réindustrialisation de la France, évidemment. On raconte ça dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, c'est reparti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov.
Le débat qui a commencé avant le débat, comme toujours.
Comme toujours, avec Leonidas Kalogiropoulos, Bruno Coquet et Emmanuel Le Chypre. Alors, la taxe carbone aux frontières de l'Europe, vous savez qu'elle va se mettre en ordre de bataille très, très progressivement. Sauf que, il y a eu cette étude hier de l'Institut Rexecode qui nous dit que ça risque quand même de faire du tort, cette affaire, au projet de réindustrialisation en France. Que nous dit Rexecode? Alors, déjà, faible effet, puisque sur les quelques 575 milliards d'euros de produits importés par la France, 7
tout est dit,
seulement seraient concernés par le nouveau dispositif. Mais surtout, ce qui ferait mal aux industriels français, c'est la fin des quotas gratuits,
oui,
qui va renchérir pour eux les coûts de quelques 4 milliards, ce qui annule finalement les effets positifs de la disparition de la CVAE. Voilà. A-t-on été un petit peu trop vite avant de jauger les effets bénéfiques de cette taxe carbone, finalement?
Alors, moi, je vais vous dire deux choses avant de donner la parole à Léonidas, qui sera mon acolyte sur ce sujet. Un, toute initiative européenne qui permet de se coordonner et puis d'aller dans le sens de la transition est bonne à prendre. Et mon deuxième point, c'est que l'objectif de ce projet, qui est d'avoir un prix du carbone en fait à l'intérieur de l'Europe, sans que ça pèse justement sur la compétitivité, sur les produits qui y sont soumis, eh bien, évidemment, c'est une bonne chose. On est en train, en effet, de se tester. Pour le moment, il y a quelques faiblesses dans le dispositif, mais je suis certaine qu'on réussira à y pallier. Léonidas.
Est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé quand même?
Sur l'objectif, je souscris à ce que dit effectivement. C'est forcément positif de le faire et de vouloir avoir ce cap. En revanche, d'abord, c'est epsilonien dans les proportions. Mais surtout, ce que je trouve en revanche très intéressant, c'est que pour la première fois dans un dispositif de cette ampleur, on va rentrer dans une phase expérimentale. Et vous savez que cette disposition, elle est pendant 3 ans en test pour voir si oui ou non elle a les effets que l'on en escompte et si oui ou non il va falloir l'amplifier, la généraliser et la stabiliser. Oui, mais c'est très intéressant.
Important, surtout
Le préciser. Et de l'avoir fait ainsi, plutôt que de nous imposer, comme les règles que l'on a avec l'AREN et de subir les conséquences et pas pouvoir en sortir après. Donc vraiment, en termes de méthode, je trouve que le fait de rentrer dans une phase expérimentale, c'est intéressant. Puis je voudrais vous glisser une autre suggestion, parce que c'est bien qu'on mette des lois dans tous les sens. Est-ce que dans la phase d'investissement considérable que l'on va devoir consentir, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à réfléchir à l'allongement de la durée des amortissements des investissements? Je vous pose ce sujet, et je pense que ça peut faire débat, pas uniquement ce soir, et le prolonger. On a des durées d'amortissement qui vont à 30 ans maximum. Imaginez ce que serait de les porter à 40 ans. Parce que, mondialement, nous avons une phase nouvelle de tournant dans notre appareil productif. Il me semble qu'il y a là un sujet qui mériterait d'être regardé.
Bon, la taxe carbone, sous sa version...
Parole à la défense.
On disait work in progress. 2026, oui, on va se jauger, finalement, Emmanuel, mais...
On va se jauger.
Si c'est pour que ça se retourne contre nous et nos projets de réindustrialisation.
L'histoire de tous les dispositifs qui ont cette ambition noble, effectivement, de vouloir aboutir au verdissement de notre économie. Mais le problème, c'est que sur tous les sujets, quand vous les prenez les uns après les autres, vous tuez les pans entiers de l'activité que vous prétendez vouloir verdir. C'est-à-dire que vous arrivez avec des pans entiers de l'économie qui seront fanés. C'est bien beau de vouloir verdir le logement, etc., mais vous êtes en train de tuer le marché immobilier. C'est bien beau de vouloir préserver notre industrie de la concurrence étrangère, mais vous voyez bien que finalement, ça va se retourner contre notre industrie. Vous voulez relocaliser, on se demande bien où on va pouvoir mettre nos usines.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire, alors?
La seule interrogation qu'on a, c'est quelles sont les lois et les dispositifs qu'il faut inventer et mettre en place pour arriver à ces objectifs. Mais la réalité, c'est qu'on a aucun... c'est comme si, une fois qu'on avait décidé et voté une loi et qu'on avait décidé de la mettre en place, le problème était réglé. Mais non, parce que vous voyez bien que tout ça ne se mettra pas en place,
mais vous voyez
que
bien,
tout ça va provoquer des catastrophes, que je reviens même pas sur le sujet d'arrêter de financer la recherche sur les hydrocarbures, etc. Et parce que vous voulez pas entendre que quand on aura le pétrole à $300 le baril, bon, vous aurez une telle crise que vos transitions écologiques, vous pourrez mettre je ne sais pas où. Je ne ne sais pas où. Vous verrez que quand on aura des famines à répétition. Non mais attendez, vous verrez que quand on aura des famines à répétition. Non mais juste pour dire que quand vous verrez que ce que va nous imposer le climat en matière d'agriculture, si vous pensez que ça pourra se résoudre avec de l'agriculture bio et sans les OGM, bah je pense que vous aurez aussi très largement des déconvenus. Donc je pense que sur tous ces sujets-là, on a une approche qui est une approche très législative.
Mais vous trouvez pas que la phase expérimentale est
si absolument, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'entre-temps, on va quand même perdre
Bruno Coquet.
Bruno Coquet, difficile de faire plus négatif.
Oui, mais voilà.
Allez-y, challenge.
Non, pour l'objectif, moi je suis d'accord.
Bah oui.
Coordination européenne, y compris dans
et la méthode.
Après ça, il faut que ça tombe du bon côté. On a vu au paragraphe précédent la concurrence, donc là, c'est aussi des sujets de concurrence auxquels on aboutit. Je vois pas comment les autres pays sont impactés. Rexecode ne fait que chiffrer le cas de la France. Oui. Donc j'imagine qu'il y a quand même des gagnants. Enfin j'espère, parce que sinon je ne vois pas ce qui s'est négocié à Bruxelles. S'il y a que des perdants dans tous les pays européens, ce serait quand même une surprise. Après sur l'expérimentation, je suis un peu plus prudent parce que autant des expérimentations c'est bien dans le principe, mais il y a des sujets sur lesquels il y a des non-linéarités, comme on dit. C'est-à-dire que là, en plus, on est en présence de choix d'investissement, c'est oui, c'est non, et ça chiffre en centaines de millions ou en milliards. Et donc, du coup, face à une expérimentation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends ou est-ce que je prends le risque, etc. Et donc, du coup, c'est pas forcément. Après, je pense que ça dépend des secteurs d'activité, mais. Je pense qu'ils n'ont pas été. Les Français auraient pu choisir un meilleur défenseur de leurs intérêts. Leonidas aurait pu faire ça extrêmement bien. C'est que les intérêts français ont peut-être été mal défendus.
Il le fait souvent sur ce plateau, d'ailleurs. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que cette méthode, elle arrive aussi en concomitance avec les fameuses clauses miroirs. Donc, c'est-à-dire que tous les produits, maintenant, qui arrivent aux frontières européennes, si elles ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, on ne les acceptera pas sur le sol européen.
Mais non, mais c'est parce que ça marche. Mais non, mais ça marche uniquement pour des matières premières, grosso modo. C'est-à-dire que ça marche pour de l'acier, ça marche, mais sur un produit fini, ça ne marche pas. Donc vous pouvez avoir des voitures qui sont fabriquées entièrement en Chine, etc., qui ne seront pas soumises à ce dispositif. Donc c'est encore
extrêmement imparfait, mais dans une phase expérimentale, en principe, une phase expérimentale, ça veut dire que on se prend pas le mur tous les matins. Quand on voit qu'il y a un mur, on adapte et on fait en sorte que les choses soient
toujours.
Mais ça veut dire que dans 10 ans, on a la chance de trouver.
Et finir petit, là, encore.
Oui,
petit,
exactement.
On finit gros.
Exactement, c'est très bien dit.
Allez, c'est terminé pour ce soir. On n'aura pas le temps de commenter, mais ce chiffre dont on voulait parler, c'est le sondage Odoxa qui a sorti une étude qui s'appelle Papras m'a tué, T-U-E-R, c'est pas mal, qui nous dit que malgré les tentatives des différents gouvernements, vous avez toujours, les Français qui ont le sentiment d'être toujours plus noyés sous la paperasse. Voilà, 90% des Français disent, c'est 8 points de plus qu'il y a 2 ans. La mairie, les centres des impôts et la Sécu sont les 3 organismes les plus critiqués.
Voilà. D'accord, mais dans le même sondage, les Français disent qu'ils sont optimistes et
J'allais le dire,
Léonidas. Ça vaut la peine quand même de le dire.
Voilà.
Il faut savoir un graphique sur le long terme avec la moyenne de long terme.
Ils sont un peu injustes parce que quand même, on n'a rien sans rien. Il y a effectivement ce qui les agace particulièrement, c'est tout ce qui concerne les papiers d'identité, etc. Où là, effectivement, ils comprennent pas qu'il faille attendre aussi longtemps pour avoir carte d'identité, etc. Ce qui les agace aussi, c'est la fausse digitalisation. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez changer de carte grise,
ça sent le vécu,
vous remplissez votre dossier.
Ça sent le vécu.
Oh, c'est merveilleux. Vous vous dites, je vais tout pouvoir faire en ligne. Et puis là, d'un seul coup, on vous dit, imprimez les documents et puis renvoyez-les par la poste.
Il y a ma prime rénov, elle n'était pas dans le sondage.
Voilà, la prime rénov. Non, mais il y a un peu d'injustice parce qu'il y a quand même des administrations qui fonctionnent bien.
Non, mais attendez,
honnêtement, on est dans un des pays la déclaration d'impôt, contrairement à ce qu'on pense, est peut-être une des plus simples aujourd'hui à remplir avec le...
Non, mais les Français disent oui à la paperasse supplémentaire pour les normes qui visent à protéger la santé, l'environnement et la RSE.
Il y a quand même un tiers des Français, nous dit l'INSEE, qui renoncent à des démarches administratives parce que c'est trop compliqué pour eux.
Ça sent le vécu sur la carte grise, là, quand même, si je ne me
trompe. Ça sent le vécu, vous avez tout à fait raison.
Voilà.
Mais je pourrais vous citer d'autres exemples qui ne sont pas vécus.
On pourrait faire une pleine thérapie.
On fait une pause.
Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Léonidas Kalogiropoulos, président de médiation et argument, vice-président d'éthique, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, et Emmanuel Le Chip. Merci beaucoup à tous les trois. 18h56, on revient dans un instant, nous, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.